Yigal Palmore, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Yigal Palmore, vous êtes ancien diplomate israélien. On va revenir avec vous sur ces déclarations de l'establishment de la défense en Israël. Il semble en fait que rien ne va plus entre la direction de la défense en Israël et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. L'établissement de la défense pense qu'en autorisant des attaques répétées contre les hauts gradés de l'armée, Benjamin Netanyahou tente de leur faire porter la responsabilité des dégâts causés à l'état de préparation de l'armée par le refus des réservistes de remplir leurs fonctions. Est-ce que les généraux israéliens qui sont en colère ont raison de signaler ce point?
Oui, mais ce n'est pas le seul point qu'il signale. S'il y a un mécontentement, c'est le moins qu'on puisse dire, une véritable bronca de l'état-major de l'armée, ce n'est pas seulement à cause de ça. C'est d'abord parce que les réservistes qui refusent de se présenter quand ils sont appelés à faire leur période de réserve, le font parce que non seulement ils sont en désaccord avec le gouvernement, il y a toujours eu des gouvernements avec lesquels une partie des réservistes était en désaccord. Ça ne les a jamais empêchés de faire leur service de réserviste ou leur service militaire régulier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, comme veulent le faire entendre certains politiciens de la coalition, de la majorité. Ce n'est pas du tout un désaccord politique. C'est simplement parce que, en changeant les règles du jeu, en changeant la législation sur des points fondamentaux de l'État, ce sont ces mêmes réservistes, ces soldats, qui sont exposés juridiquement. Ils sont exposés, je ne vais pas approfondir le sujet, vous allez comprendre, mais ils sont exposés à certaines démarches juridique sur le plan international. S'ils ne sont pas protégés par la Cour suprême, si la Cour suprême est affaiblie, voire assujettie aux politiciens, c'est-à-dire au gouvernement, à l'exécutif, eh bien cette Cour suprême ne sera pas considérée comme indépendante par les instances juridiques internationales. Et donc les soldats israéliens sont exposés. Et vous comprenez bien de quoi il s'agit. Mmh. Et c'est cela qu'ils protestent. Maintenant qu'ils refusent de venir et leur raisonnement, tout cela, l'état-major veut l'exposer aux responsables politiques pour leur expliquer la situation. Or, les responsables politiques et à leur tête le Premier ministre refusent de les écouter. Ils refusent de les réunir à huis clos avec le cabinet de sécurité ou en tête-à-tête avec le Premier ministre et simplement d'écouter leur analyse et leur exposé sur la situation actuelle au sein des rangs de l'armée régulière et des réservistes.
Mais alors
ils ne
pourquoi,
veulent pas entendre.
Pourquoi les responsables politiques Benjamin Netanyahou en tête ne veulent pas entendre justement ces inquiétudes des soldats israéliens?
Parce que personne ne veut entendre les mauvaises nouvelles. Si on entend les mauvaises nouvelles, c'est que ceux qui les auraient entendues porteraient une partie de la responsabilité, au moins une partie, parce que tout cela a commencé avec l'initiative dite de réforme judiciaire du gouvernement. Donc il y a bien un début à ce processus dont on parle, il y a bien des raisons, il s'est passé quelque chose. Qui est à l'origine de ce quelque chose, de ce processus qui est décrié, qui est craint par les réservistes? Qui est à l'origine de tout ça? C'est le gouvernement, c'est le Premier ministre. Il devrait donc prendre leurs responsabilités, et ils refusent de le faire. Au lieu de le faire, ils multiplient les invectives contre l'armée, contre les généraux, contre le chef d'état-major, et le Premier ministre se tait. De temps en temps, il se fend d'un petit communiqué assez discret, dans lequel il assure sa confiance en des termes très très généraux et très laconiques, aux services de sécurité, à l'armée en général, etc. Mais il laisse faire. Il laisse faire ses ministres, il laisse faire ses députés quand ceux-ci prennent à partie des généraux de l'armée. C'est incroyable. On voit la majorité parlementaire, la majorité gouvernementale contre l'armée, la majorité contre le Shin Bet, le gouvernement contre les institutions de l'État. C'est vraiment un théâtre de l'absurde que même Eugène Ionesco n'aurait pas imaginé.
Mmh. Et ça va même plus loin que Netanyahou laisse faire ses ministres ou les parlementaires. Il laisse même faire son fils, Yair Netanyahou, qui lui se fend d'un message Facebook critiquant le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, là encore, pour ne pas avoir pris de mesures contre les réservistes qui ont refusé de se présenter à leur service volontaire. C'est quoi la légitimité de Yair Netanyahou, mis à part le fait d'être le fils de son père ?
Aucune légitimité, il n'a jamais été élu à quelque position publique que ce soit. Pire, il n'a jamais travaillé, il a toujours vécu dans la maison de ses parents, il a passé les 30 ans, on ne lui a jamais connu un travail quelconque, un travail fixe, je veux dire, pas un présentateur d'une chronique à la radio, ça ne veut pas dire un travail. D'ailleurs, ça n'a pas duré plus que quelques mois. Et donc, aujourd'hui, si vous évoquez le cas du fils de Netanyahou, il a été écarté non seulement des affaires mais du pays. Il est en exil aux États-Unis dans des conditions qui restent mystérieuses et qui font l'objet de beaucoup de commérages dans les médias et dans la société. Tout cela reste mystérieux. Du jour au lendemain, il est parti. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas exactement vers où, ça n'a pas été annoncé, c'est la presse qui a révélé qu'il est à Miami, et il a complètement arrêté de sévir sur les réseaux sociaux. Alors, de temps en temps, il partage un post, vous l'avez évoqué, c'est assez extraordinaire pour qu'on en parle, mais à l'époque, il faisait environ 208 par jour, et certains étaient vraiment vicieux. Tout le monde en parlait. Ça a fait l'objet de plusieurs poursuites en justice. Mais là, il est en exil, imposé par ses parents, imposé par lui-même, imposé par le Shin Bet. Personne ne le sait. Les conditions sont très mystérieuses. Et donc, c'est une affaire qui reste à élucider.
Alors, tout ça ne suffisait pas, on a appris que l'argent qui devait être affecté aux communautés arabes israéliennes, ne le seront pas. On sait que la communauté arabe israélienne traverse une crise profonde, notamment à cause d'un taux de criminalité très important, et des budgets avaient été débloqués justement pour aider les principales villes arabes israéliennes à s'organiser contre cette criminalité. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, juge que cet argent serait mieux employé ailleurs que pour les localités arabes israéliennes, ce qui provoque une colère. Et on le comprend, de la communauté arabe israélienne, qui a décidé d'ailleurs aujourd'hui d'une grève, même dans les écoles. Les Arabes israéliens, en plus des manifestations, des protestations de tous ceux qui ne désarment pas contre la réforme judiciaire, et le gouvernement semble complètement aveugle à ce qui se passe dans le pays.
Oui, et ce qu'a fait le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, est absolument indéfendable. Il a trouvé une excuse ou un prétexte pour dire que non, que finalement, en fait, c'est pour le bien de la population arabe qu'il a fait ça, parce qu'il veut instaurer un mécanisme de supervision pour que les fonds ne soient pas éparpillés, qu'ils ne tombent pas dans les mains, justement, des groupes criminels qui sévissent dans la société arabe. Mais c'est cousu de fil blanc, personne ne le croit, on comprend bien qu'il veut simplement bloquer des budgets qui ont déjà été alloués par une résolution du gouvernement. Donc c'est même illégal ce qu'il fait, parce qu'à partir du moment où le gouvernement prend une décision d'allouer des budgets, même si ce gouvernement change, le gouvernement suivant n'a pas le droit de revenir sur cette décision, d'autant plus que ces mêmes localités ces mêmes municipalités ont déjà préparé des budgets et ont pris des obligations financières sur la base du budget promis. Et donc maintenant, ils ont pris des obligations qu'ils ne peuvent pas honorer. Et évidemment, tout cela se terminera très mal. Et en plus de ces budgets pour les municipalités arabes qui ont été bloqués, en même temps que cela, le ministre Smotrich, le même, hein, annonce qu'il bloquera des budgets prévus pour des étudiants arabes, israéliens et palestiniens, qui souhaiteraient intégrer des études à l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors, il y a une année préparatoire qui a pour objectif de les préparer et de leur permettre d'intégrer des études dans cette université. C'est évidemment une démarche à laquelle personne ne trouve à redire. Même le Shin Bet est totalement favorable à ce genre de démarche. Mais le ministre Smotrich, lui, a décidé que les étudiants arabes, dans leur ensemble, sont des terroristes ou ils soutiennent le terrorisme ou l'islamisme, enfin n'importe quoi. Et donc, c'est son prétexte pour bloquer le budget et pour empêcher que ces étudiants poursuivent leurs études à l'Université hébraïque de Jérusalem. Évidemment, ils vont donc poursuivre leurs études dans des universités palestiniennes où, bien entendu, tout le monde sait, il n'y a pas de cellule islamique et tout se passera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, le ministre Smotrich a été vivement critiqué par certains des ministres de son propre gouvernement, par des membres de son parti, par des services de sécurité, par le Premier ministre, mais il tient bon. Il ne veut pas donner de budget, là encore il a trouvé des prétextes, et on ne peut plus se cacher, on ne peut plus fermer les yeux sur les vraies motivations qui sont transparentes. C'est du racisme pur et dur, et on ne pourra pas clamer que c'est autre chose. Quand il s'agit du ministre Smotrich, celui qui a déclaré qu'il fallait effacer le village palestinien de Hawara, eh bien, le doute n'est plus permis. C'est du racisme éhonté qui prend la forme d'une politique ministérielle et que le Premier ministre Netanyahou n'arrive pas à endiguer.
On se demande, en vous écoutant, Yigal, depuis le début de notre conversation, on se demande aujourd'hui qui dirige l'État d'Israël ?
C'est ce que se demandent les Israéliens, d'ailleurs. Et ils sont très nombreux, à gauche, bien sûr, mais même à droite, hein, qui disent qu'aujourd'hui, Netanyahou n'a plus les mains sur les commandes, que c'est Yariv Levin, le ministre de la Justice, que c'est Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, que c'est Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure. C'est eux qui donnent le « là », c'est eux qui tirent le gouvernement chacun dans sa direction, et il n'y a personne, il n'y a aucun adulte dans ce jardin d'enfants pour leur dire « arrêtez, vous ne commandez pas, ce n'est pas vous qui déterminez la ligne gouvernementale, c'est pas vous qui décidez, personne n'est là ». Et alors, on rappelle une scène extraordinaire qui a précédé le fameux vote à la Knesset sur l'annulation
du caractère raisonnable.
De plausibilité. Comment vous dites ?
Du caractère raisonnable.
Oui, du caractère raisonnable, voilà. On a vu à la télé Netanyahou assis sur son fauteuil ministériel, entouré de Yariv Levin, ministre de la Justice, et de Yoav Gallant, ministre de la Défense. Et ces deux-là se disputent au-dessus de sa tête ou devant lui sur ce qui va se passer pendant le vote. Le ministre Gallant dit à Levin, oui, mais donne-moi quelque chose au moins. Et l'autre lui dit, non, mais pas du tout, c'est pas possible. Enfin, des choses comme ça. On a vu tout ça à la télé. Netanyahou est assis entre les deux et il ne bouge pas. Mmh. Il ne dit rien. Il ne pipe mot. Il ne les regarde même pas, comme s'il était paralysé. Et c'est une scène qui fait froid dans le dos, parce qu'elle vous laisse comprendre qu'aujourd'hui, le Premier ministre n'est pas le premier parmi les ministres, sauf par son titre. Il ne commande pas, il se laisse entraîner Parfois dans une direction, parfois dans une autre, ou alors il se laisse entraîner. On ne sait pas combien cette situation lui plaît ou lui déplaît, mais il n'impose pas une ligne qui serait cohérente dans sa propre idéologie, mais en tout cas une ligne tenable, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une anarchie absolue au niveau du gouvernement, pas au niveau des manifestants. L'anarchie, c'est le gouvernement. La chienlit, c'est eux.
On va rajouter une couche avec ce qui se passe dans les transports publics en Israël. On voit de plus en plus d'incidents concernant des Israéliens, on va dire des Israéliens non ultra-orthodoxes, qui se font interpeller, agresser verbalement par des ultra-orthodoxes concernant leur tenue vestimentaire, les jugeant trop courtes, trop déshabillées. Est-ce qu'on est à la veille d'avoir une police des mœurs en Israël ?
Alors c'est pire que ça, parce que même si on pourrait comprendre qu'une tenue très très courte pourrait choquer des ultra-orthodoxes, ce qui ne justifie aucunement bien sûr des invectives ou des humiliations, ça c'est clair et net, mais on pourrait comprendre le choc. Il faut dire que ce n'est pas du tout, ce ne sont pas les seuls cas. Il y a eu aussi un cas qui a fait beaucoup de vagues, d'une famille ultra-orthodoxe qui avait invectivé des jeunes femmes soldats dans un train, alors que celles-ci étaient vêtues d'un uniforme. Donc vous comprenez qu'il n'y avait pas de jupe trop courte ou de chemise trop ouverte, pas du tout, mais elles étaient des femmes soldats en uniforme, et c'est parce qu'elles étaient soldats de Tsahal qu'elles ont fait l'objet de propos extrêmement humiliants de la part de cette famille ultra-orthodoxe. Tout cela a été pris en vidéo, c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Pas un seul député orthodoxe n'a pris la peine de condamner cette conduite, pas un seul. Donc ce n'est pas seulement une affaire de mœurs, il y a aussi les affaires de police de mœurs, soi-disant police de mœurs, c'est assez grave en soi, mais on voit que ça se propage à d'autres domaines. Ce sont des individus, pour l'instant c'est pas des communautés entières, mais ce sont des individus qui ont l'air d'être normatifs dans leur société, dans cette tranche de société que sont les ultra-orthodoxes, et qui se permettent de prendre à partie, d'humilier et d'injurier des femmes parce qu'elles portent un uniforme, parce qu'elles portent une tenue trop courte, parce que ceci, parce que cela. Et c'est intolérable. Là encore, le Premier ministre s'est fendu d'un petit communiqué très modeste, mais on n'a pas entendu les députés religieux ou orthodoxes. Et donc, c'est un phénomène qui va se poursuivre. Il est certainement dû au sentiment de cette population d'avoir le vent en poupe. Et c'est très grave, effectivement, c'est très très grave.
Yigal Palmor, qu'est-ce qui va bien aujourd'hui en Israël ?
Oh, ce qui va bien surtout, c'est cette mobilisation d'une très très grande partie de la société, une mobilisation pour la démocratie, pour les libertés, pour la tolérance. Évidemment, ça vient de plusieurs côtés, ce n'est pas politisé, ce n'est pas qu'un courant de gauche ou un courant de centre, ou voire même un courant de la droite libérale. C'est pour ça qu'on peut trouver au sein des manifestants des opinions parfois très très variés, voire incompatibles, mais ce qu'ils ont tous et toutes en commun, c'est leur maintien de ce qu'on appellerait en France, leur soutien de ce qu'on appellerait en France la République, c'est-à-dire des institutions de l'État démocratique, d'une démocratie libérale, d'un régime qui serait ouvert et qui devrait être réformé. Bien sûr, toutes les démocraties peuvent être réformées socialement, juridiquement, économiquement, bien entendu, mais de façon raisonnée et en maintenant la chose publique, c'est-à-dire l'intérêt général, l'intérêt pour tous. C'est une société ouverte, une société tolérante, une société démocratique que aujourd'hui soutiennent ces masses de de personnes venues de toutes parts, du pays tout entier, beaucoup moins homogène qu'on ne veut le dire, beaucoup moins homogène. C'est faux de dire que ce sont surtout les jeunes bobos de Tel Aviv qui manifestent. C'est très très loin de la vérité. Il y a des manifestations partout dans le pays. On voit des religieux, on voit des jeunes, on voit des vieux, on voit des gens de gauche, on voit des gens de droite, on voit même une partie des sionistes religieux qui manifestent et qui protestent. Et donc ce soulèvement montre bien que la société israélienne ne se laissera pas faire. Elle est encore saine, elle n'est pas pourrie comme certains de ses dirigeants, et ça donne beaucoup d'espoir. Alors nous sommes partis pour une longue guerre d'attrition, c'est vrai, les choses ne changeront pas en un jour, mais la population résiste, et c'est le plus important.
Yigal Palmore, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate israélien. Merci et bonsoir.
Bonsoir.